Micro Tabou, un podcast d'anecdotes autour des troubles digestifs, racontés par ceux qui les ont vécus. Des histoires personnelles, sincères, touchantes et inavouables autour de la fragilité du microbiote intestinal et des maladies digestives. Micro Tabou, une série podcast sans tabou, à écouter partout, depuis son canapé, dans les transports et même au petit coin. Épisode 4, profession malade. Patricia vit depuis 30 ans avec une maladie appelée rectocolite hémorragique. Dès son entrée dans le monde du travail, elle a dû s'adapter et développer des stratégies au quotidien pour ne pas éveiller les soupçons sur sa maladie.
Avant de tomber malade, j'avais une santé de fer. Je ne savais pas ce que c'était que la maladie ou ce que c'était qu'une maladie chronique. À partir du moment où j'ai commencé à avoir de premiers symptômes et qui sont devenus très vite, très violents, comme par exemple des grosses douleurs au ventre, un besoin impérieux d'aller aux toilettes très régulièrement, plus de 10 à 12 fois ou 15 fois dans la journée, toujours ces douleurs, cette souffrance, beaucoup de sang perdu aux toilettes et puis beaucoup de fatigue. Donc à partir de là, on a diagnostiqué très vite que j'avais une RCH, donc j'ai été hospitalisée assez longuement. J'avais des limites physiques, en particulier n'ayant plus la totalité de mon côlon, j'étais en circuit court, si je puis dire, au niveau alimentaire. Donc j'avais une digestion très rapide et un besoin impérieux d'aller aux toilettes assez rapidement. Je me suis bien rendu compte que je ne pourrais plus vivre la vie que je m'apprêtais à vivre au niveau professionnel, toujours en extérieur, avec pas d'horaire, toujours en pleine forme. Donc, je me suis orientée très naturellement sur la communication interne et ensuite la chefferie de projet dans le marketing, dans un grand groupe dans lequel j'ai fait la totalité de ma carrière. C'est une chose dont on ne parlait jamais. On n'abordait pas la maladie parce que moi, je ne l'abordais pas. Parce que, d'une manière générale, j'ai toujours fait en sorte de remplir mes objectifs, même en milieu quand j'étais hospitalisée ou arrêtée. Je travaillais beaucoup en télétravail. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille en mode télétravail. Quand on est malade chronique, on a une espèce d'intuition par rapport aux autres et généralement, on essaie de s'entourer de personnes qui sont entre guillemets « Mickey compatibles », c'est-à-dire bienveillants, avec une sensibilité. La gestion de la maladie, c'est une gestion très séquencée pour être très maîtrisée. Je ne sors jamais une journée entière, j'évite les pique-niques, j'évite la plage sur la journée parce que il faut des toilettes, il faut savoir ce qu'on va manger. Rien n'est simple et on n'a pas envie non plus d'en parler aux autres. Quand vous êtes malade chronique, vous devez compenser. Si vous voulez avoir, les mêmes possibilités, les mêmes opportunités que les autres dans la vie professionnelle, il faut compenser. Compenser ce qu'on risque d'apporter en lourdeur par quelque chose de plus. Un talent que les malades chroniques ont, mais dont ils n'ont pas forcément toujours conscience, c'est que quand on est malade chronique, on a à se battre comme ça au niveau professionnel tout le temps finalement, parce que cette maladie, elle ne nous quitte jamais. Tous les mécanismes qu'on met en place font partie vraiment de notre ADN. On développe en fait une adaptabilité, on est plus sensible, on a quelquefois une vision un petit peu décalée des choses qui peut apporter beaucoup à une entreprise ou à une équipe. Donc ça, c'est vraiment, on a un certain talent finalement obligatoire, qu'on développe par instinct de survie finalement, qui peut aussi être mis dans la balance quand il y a un recrutement. La grosse problématique de cette maladie, en tout cas pour moi dans ma vie professionnelle, c'est l'alimentation. J'ai tout de suite fait le lien entre, à tort bien sûr, mais tout de suite fait le lien entre je mange, j'ai mal, je dois courir aux toilettes. Et comment je fais si je suis en réunion? Comment je fais si je suis en séminaire, en voyage? Je ne veux pas en parler aux autres, je ne veux pas que ça se voit, je ne veux pas que ça se sache spécifiquement. Donc, la stratégie d'évitement que j'avais mise en place et qui n'est pas maligne, et l'évitement alimentaire, Donc, généralement, on évite de déjeuner avec les collègues. Alors, généralement, on est toujours prise au déjeuner. Alors, on a une course à faire, on a du travail en retard, on a une réunion à préparer. Donc, les gens s'habituent à ne plus nous voir au déjeuner. En revanche, j'étais Madame Pause Café. Donc souvent, je provoquais les pauses café ou le matin ou l'après-midi. Et là, ça permettait quand même de lier ou de tisser des liens ou de maintenir des liens informels, des liens relationnels avec l'équipe de manière informelle. On avait des séminaires internes à organiser. Donc étant l'une des organisatrices, ça me permettait de mettre en place mes mécanismes pour tout le monde. Donc j'allais visiter les lieux, en particulier les toilettes, m'assurer que les toilettes existaient, qu'elles étaient en nombre conséquent en fonction du nombre de personnes. personnes. Et puis, au niveau des menus, je me permettais d'organiser pour tout le monde le menu, donc qui pouvait aussi me convenir. Donc, généralement, on met du riz, des pâtes, ça convient à tout le monde. Hein. En plus de cela, moi, j'ai très, très peur de l'avion. Et cette peur de l'avion est arrivée au moment où j'ai eu ma maladie. C'est-à-dire que le fait de me retrouver emprisonnée dans un avion avec une seule toilette pour je ne sais combien de passagers et un avion qui m'emprisonne, voilà. J'ai rencontré la Fachkron RCH France, qui est en fait l'association qui accompagne les malades de Mickey et leurs proches dans leur qualité de vie, hein, dans tout ce qui fait la prise en charge du quotidien. À l'époque, c'était vraiment une association assez réduite. Allez donc les voir parce qu'ils sauront vous accompagner. Et c'est vrai que la FA m'a suivi et je l'ai suivi depuis 30 ans. Donc, je l'ai vu grandir. Et puis, j'ai pu comme ça, justement, bénéficier de tout un accompagnement thérapeutique de leur part, hein, que ce soit au niveau diététique, que ce soit au niveau, justement, de tout ce qui est urgence toilette, savoir où sont les toilettes en France, par exemple. Il y a une application qui existe. Alors, rencontrer la FA, pour moi, ça a été très important et une évidence parce que je n'étais plus seule face à la maladie. Ça me rassurait, ça me permettait d'être peut-être plus optimiste sur certains points. À force donc de jeûner ou d'être dans une stratégie d'évitement alimentaire dans ma vie professionnelle, moi je me suis beaucoup anémiée, j'ai beaucoup maigri, j'étais très fatiguée et je me suis retrouvée face à mon gastro-entérologue avec des analyses de sang qui étaient vraiment pas très bonnes. Et du coup, là, il y a eu un électrochoc où il a fallu que je me reprenne en main. Donc, lui m'a orientée vers un diététicien qui m'a réappris à manger normalement. Après, réappris à manger avec plaisir, qui m'a permis aussi de me rendre compte que l'alimentation, c'est quand même le carburant de la vie, en particulier pour combattre nos Mickey. 30 ans plus tard, je vais beaucoup mieux. Ça a été quand même une sacrée aventure, très rock'n'roll. Mais j'ai l'impression maintenant de mieux connaître ma maladie, de mieux l'apprivoiser.
Vous venez d'écouter un épisode de Micro Tabou, une série podcast qui libère la parole et brise les tabous autour des problèmes intestinaux proposés par le laboratoire Pilège. Découvrez dès maintenant la suite des épisodes sur toutes les plateformes et sur www.masantepassepartmesmicrobiotes.fr.